C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Mais on est bien là. Ça sent le repos, la douceur, le bien-être, et ça tombe très très bien parce que aujourd'hui, je te convie à la gourmandise, à l'appétit, à la faim d'apprendre, de tisser des liens. Je sors d'un spectacle créé par une complice de cette émission depuis 12 ou 13 ans déjà, la conteuse Angèle Goduchot.
Tourne la petite ours, le soleil se lève au matin, la lune disparaît au loin. Tourne la grande ours, tourne la petite ours, tourne la grande ours, tourne la petite ours, tourne la petite ours, tourne la petite ours. La première fois que je suis née, j'étais dedans. Enfin, dedans, pas là, dans mon ventre, mais dans celui de maman. J'étais dans son ventre, tu crois ça, toi? Là! C'est moi qui étais à l'intérieur du ventre, comme un bonbon. Une petite pomme, comme un poisson ou une grenouille, dans le ventre de maman, autour de moi, c'était tout doux. Rien ne pouvait me faire du mal. Et de là, de l'intérieur, moi, j'imaginais le monde. Et de là, de l'intérieur, j'entendais les bruits du dehors. Maman, papa, la sonnette de la porte d'entrée, le moteur de la voiture, le ronronnement du chat. Et tout un tas d'autres bruits, et même la musique des étoiles, du ciel, de toutes les planètes. De mon petit nid douillet, je pouvais communiquer avec le monde entier. J'étais bien. J'avais besoin de rien.
Tourne la grande ours, tourne la petite ours. Tourne la grande ours, tourne la petite ours. Le soleil se lève au matin. La lune disparaît au loin. Tourne la grande ours, tourne la petite ours.
Angèle Goduchot, tu sors d'un spectacle tout juste là qui s'appelle Miam et qui a été donné dans le cadre d'un festival qui s'appelle les soirées doudou, c'est ça?
Oui, c'est ça, les soirées doudou. C'était des spectacles pour les... Pour les bébés, les petits-enfants, c'était une espèce d'aventure, j'imagine, pour eux, parce qu'ils avaient pris leur repas du soir, mangé, mis leur pyjama, Et ils venaient au spectacle.
Ils jouaient bien le jeu.
Avec leur doudou. Ben, ils étaient trop contents. Ouais.
Les parents n'étaient pas en pyjama quand même.
Les parents n'étaient pas en pyjama.
D'accord.
Moi non plus.
Donc en fait, Miam est un spectacle pour enfants, on peut le dire.
Oui, Miam est un spectacle pour enfants et même pour petits-enfants. C'est-à-dire en fait, il a la particularité, ce spectacle, je trouve, c'est pas le cas de tous, mais celui-là, il a, je trouve, la particularité d'être très bien avec des âges mélangés. C'est-à-dire que on peut avoir 2 ans, même un petit peu moins de 2 ans, il y a des bébés qui viennent, mais on peut avoir aussi 3, 4, 5, 6, et je trouve que les petits apprennent des plus grands,
Alors, dans ce spectacle qui est fait pour les enfants, voire les tout petits enfants, comme tu dis, moi qui ai assisté à plusieurs représentations, en fait, lors de ce festival, j'ai vu des adultes sortir assez émus de ce spectacle-là. Est-ce que on peut décortiquer?
Tu l'as vu le punk? Il y avait un punk avec une grande crête verte et rouge. Et il est venu me voir. Et alors il est venu. C'est un vrai punk curieux.
On sait que c'est des sentimentaux.
Ouais. Il est venu me voir. Il n'avait pas d'enfant lui. Il n'avait pas le prétexte d'avoir des enfants avec lui. Et il est venu me voir et il m'a dit « Waouh, j'ai kiffé, c'est chamanique ton truc !» Alors je dis « Et il me dit « Ce que j'adore !» Alors lui, il était bariolé, franchement. Ouais. Les cheveux étaient verts et rouges, il avait des boucles d'oreilles partout, des chaînes, des trucs et tout ça. Et il m'a dit « Ce que j'aime, c'est la sobriété
!» Ah oui, d'accord.
oui, c'est vrai que souvent les adultes sortent de ce spectacle touchés, émus.
Alors, on va y revenir tout à l'heure. Hein, on va y revenir tout à l'heure de ça.
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que un bon spectacle pour enfants, de mon point de vue, c'est un spectacle qui est pensé pour les enfants. Fait pour les enfants, mais dans lequel tout le monde se retrouve. Et en l'occurrence, la première intéressée, c'est moi. J'ai légèrement dépassé la cinquantaine, et ce spectacle me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est très important. Je donne pas à manger des trucs qui, à moi, me plaisent pas, quoi. C'est comme pour les petits pots, tu vois. Petits pots dégueulasses, non. Les blédis chefs, non.
Thank you.
été, automne, j'ai passé 3 saisons là. Et puis un jour, toutes mes affaires étaient prêtes. Mon cœur était là depuis longtemps et il battait d'impatience. Mes poumons étaient prêts à se gonfler, aussi à se dégonfler. Mon ventre fonctionnait aussi très bien. Dans le ventre de maman, je faisais déjà pipi. Mes jambes, mes petits pieds avaient appris à se plier, se déplier, à donner des coups de pied. Et ils savaient aussi très bien qu'un jour, ils marcheraient sur terre. Mes épaules, mes bras, mes mains. Oh ! Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 3. Celui-là, le petit bonhomme, c'est le pouce qu'il se nomme. L'index lui montre le chemin. C'est le 2e doigt de la main. Le majeur a l'air d'un grand frère entre l'index et l'annulaire. L'annulaire portera l'anneau. Avec sa bague, fera le beau. Et le petit auriculaire, il court derrière, caresser, taper, tourner, danser. Je pouvais sucer mon pouce. Je pouvais me gratter la tête. Tiens, ma tête. Je fais le tour de ma maison. Le toit, le grenier, les fenêtres, d'autres fenêtres, les escaliers, le paillasson, salle à manger, salon, la porte d'entrée et mon menton pour dire non. Dans ma tête, ça disait non. Je ne veux pas sortir dehors, non. Pas quitter cet endroit doux, non. Je veux rester une grenouille, un poisson ou un bonbon. Non, moi je veux rester dedans, dans le ventre de maman. Continuer tout comme avant. Mais dans ma tête, ça disait aussi oui. Connaître l'autre côté, oui. Pouvoir toucher mon papa, ma maman et puis le chat, oui. Apprendre à marcher, à courir, à danser, oui, je veux faire partie du grand monde. Alors, je suis sortie et je suis née pour la 2e fois.
C'est pas pour dire, aujourd'hui, il est question de naissance et de vie, d'envie et d'appétit avec Anne-Gaëlle Godu-Chaud. Où as-tu créé Miam? Je sais que ça a été fait un petit peu dans des conditions particulières.
Oh oui, je vois de quoi tu parles. Oui, ça a été fait dans des conditions particulières. Ce spectacle était programmé déjà. Il devait faire sa première dans un festival. Et il n'était pas encore créé, comme souvent, c'est le cas. J'avais l'idée, le thème, mais pas encore la manière, voilà. Et donc j'étais à La Havane. J'étais en train de travailler à La Havane avec de la journée. Je travaillais avec des musiciens et chanteurs de tradition Yoruba, tous ces chants et tous ces rythmes afro-cubains. Donc ça m'occupait toute la journée. Mais il y a un moment délicieux dans ces endroits-là, et en tout cas à La Havane c'est le cas, comme dans mon Afrique natale. Il y a un moment vraiment délicieux, c'est avant le lever du soleil. Parce qu'il fait frais encore et c'est un endroit de la journée pour travailler génial. Alors là, je me levais tous les matins vers 4 heures et je m'installais sur la terrasse de la maison dans laquelle j'étais hébergée, par terre, avec un coussin derrière mon dos, mon ordinateur sur mes genoux, à ma droite une assiette avec de l'ananas et de la mangue, un petit café, voilà. Et j'écrivais jusqu'à ce que le soleil m'empêche de continuer, c'est-à-dire que je voyais le soleil se lever. Et il y a un moment où le soleil était trop haut, je l'avais dans les yeux et de toute façon c'était...
Tu l'as repris aussi, tu as continué à le travailler peut-être.
Ah bah j'ai continué à le travailler, mais l'écriture...
Tout était posé quoi.
Toute l'écriture, la structure et le texte ont tout été écrits à la Havane. Et après je savais que je l'ai écrit comme une comptine, ça se voit pas je crois, mais il est tout écrit en octosyllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, tout est écrit comme ça. Et donc je savais que pourquoi j'ai écrit ça en octosyllabes, c'est pas seulement pour frimer ou pour faire un clin d'œil à mon maître en compte Bruno de la Salle, mais parce que avec une versification, on se rapproche de quelque chose comme de la chanson ou de la comptine. Ça sonne bien, ça facilite aussi la mémorisation. Et puis voilà, on sait bien que pour l'écriture, les contraintes, c'est bien. Voilà. Donc je savais qu'en rentrant, j'allais devoir travailler avec la musique. Mais je pense quand même, la question de où ça a été écrit, ça conditionne des choses. Je me souviens par exemple que j'ai écrit la troisième partie de la grande traversée des mille et une nuits. Il y a quelques années, j'ai travaillé ma version des mille et une nuits. Et la troisième partie, quand on rentre dans le cycle des Dames de Bagdad, qui sont les textes plus mystérieux et un peu érotique aussi de cette œuvre-là. J'étais dans un village un peu perdu. C'est des amis qui nous avaient prêté cette maison sur la côte méditerranéenne du Maroc, dans le Rif plus ou moins. Et voilà, et pareil, tous les matins, je me levais assez tôt et je m'installais sur la terrasse et j'écrivais. Et c'est vrai que d'écrire les mille et une nuits avec régulièrement le chant du muezzin, ça change quelque chose, ça change quelque chose. Et ben là, pour ce récit-là, qui parle de la vie, de gourmandise et tout ça, enfin, on va parler peut-être du contenu un peu plus tard, mais quand même, il y avait... toute la journée, je travaillais avec des gens qui sont des grands rythmiciens, des chanteurs, et donc c'est vrai que le côté rythmique de l'écriture vient possiblement de ça. Et puis, c'est apposé une chose que je n'avais pas prévue, qui en effet faisait dire à ce peuple que c'est chamanique ton truc, mais qui vient probablement du fait que je travaillais aussi avec des gens et dans cette culture qui est une culture animiste, c'est-à-dire avec plein de dieux, on pourrait dire, et puis où on pense que chaque chose, chaque être est doté d'une âme. Ça change quelque chose, c'est venu vraiment influer sur le spectacle.
Ma main est un jardin. Je plante une graine, je plante deux graines, trois, quatre, cinq, je tasse bien. Et j'attends. Oh, un nuage. Et oh, la pluie. J'attends. Oh, le soleil. Il fait chaud. J'attends. Tong ! Une fleur. Deux fleurs. Trois, quatre, cinq. Ma main est un jardin de fleurs. À l'intérieur, il y avait aussi un arbre. Un arbre grand, avec des racines, plein de branches, un nid, un œuf et cinq frères qui montent tout en haut. Celui-là a vu l'œuf. Celui-là l'a pris. Celui-là l'a fait cuire. Celui-là l'a mangé. Et au tout petit, il n'est rien resté. Lèche le plat, mon petit. Lèche le plat. Il y avait aussi un bateau sur l'eau.
C'est pas pour dire, le spectacle Miam avec Angèle Goduchaud.
Alors bien, on va parler maintenant, si tu veux bien, de Miam, de quoi parle Miam vraiment, et tu nous as attisé notre curiosité avec Cuba et cette culture animiste, et voilà. De quoi parle Miam?
Eh bien, j'étais partie, moi, mon projet était d'écrire une chose sur l'appétit. Avec cette idée que quand on parle de nourriture, il est rare qu'on parle seulement de nourriture, c'est-à-dire qu'on parle seulement des aliments, des protéines, des glucides, des minéraux, des machins, des trucs qu'on bouffe, quoi. Il est rare qu'on parle seulement de ça, parce qu'en fait c'est tout mélangé. Quand on parle de nourriture, il paraît que nous, les Français, on est particuliers.
On parle de plaisir aussi.
On parle de plaisir, on parle de convivialité,
voilà.
On parle de culture, on parle de couleur, on parle d'odeur, on parle de sensualité, on parle de s'alimenter, mais tous les sens du terme. Se nourrir dans tous les sens du terme. Et donc j'étais partie de cette idée-là, de parler de la nourriture, mais de dire à quel point, c'est difficile de discerner, et quand on est petit, on le sait, parce que le moment du repas est souvent un point d'ancrage, de crispation dans les familles. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à des repas avec des petits, mais les parents sont très angoissés que leur enfant mange pas assez, mange trop, les gens se fâchent parce que j'ai pas faim, parce que j'en veux pas, alors t'auras pas de dessert. C'est un point d'inquiétude et de crispation souvent. C'est à dégoûter de manger, hein, quelquefois, hein, franchement. J'ai assisté à des scènes de repas avec des petits qui étaient impressionnantes, à quel point il y a quelque chose qui fait peur dans le fait de ne pas manger correctement ou de ne pas être...
C'est cette personne que tu avais écoutée une fois qui t'a dit... qui était devant un enfant en lui disant bah, « tu manges pas, tu m'aimes pas ?»
Ah, je t'ai raconté ça, oui, mais ça c'était quand j'étais plus grande, oui, quand j'étais en primaire, j'avais une amie très chère qui était obèse, et quand je suis allée la première fois dormir chez elle, moi j'avais un appétit d'oiseau, et donc elle m'avait dit à moi, tu manges pas, tu m'aimes pas. Et je me suis dit, waouh, là il y a un raccourci génial. Et quand elle avait entrepris un jour, un toubib avait osé dire votre fille est obèse, elle a un problème avec l'obésité, il va falloir faire quelque chose. Alors elle avait mis sa fille au régime, mais c'était horrible parce que c'était comme de dire, bon, pendant un certain temps je vais te priver de mon amour, quoi. Il y avait quelque chose comme ça. Oui, oui, bah. Donc la nourriture, ça crispe tout ça, et on sait bien que on parle des douceurs, par exemple, pour parler des choses sucrées. On sait bien que la nourriture, quelquefois, ça vient compenser, ça vient remplacer le manque d'amour, le manque de lien, le « je m'ennuie, je mange, j'ai peur, je mange », voilà, tout ça. Et donc, j'avais envie de parler de ça, et aussi d'une chose qui est un genre de tabou, on pourrait dire, qui est du fait que c'est pas parce qu'on est petit, qu'on est bébé ou petit enfant, que on est forcément heureux. Je veux dire, on a une image de l'enfance. Alors, un enfant est forcément innocent. Ça, je me souviens suffisamment de mon enfance
pour dire que non.
Non, bien sûr que non. Un enfant, heureusement que les enfants n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils voudraient, parce qu'on serait, on vivrait dans des tyrannies, dans des horreurs je pense que Macron devrait grandir avant d'être président. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a des clichés sur les enfants. L'enfance et innocence et joie, plaisir, tout est beau, tout est... Voilà, bon, je crois pas. Je crois qu'un enfant a une très grande souplesse, beaucoup plus que nous. Il a une très grande capacité à traverser les émotions sans s'y accrocher. C'est-à-dire qu'il est dans un désespoir profond, et hop, il y a quelque chose qui détourne son attention, il y a un oiseau qui passe, il y a quelque chose, et hop, il se met à rire. Alors les parents, qui sont souvent complètement crétins, disent « Ah, alors c'était du cinéma ?» Non, c'est pas du cinéma, c'est que les enfants sont des prodiges de souplesse dans leur relation aux émotions. Ils sont vraiment des maîtres de ce point de vue-là. Mais voilà, ils ne sont pas toujours dans la joie. Et on peut dire aussi qu'il y a des enfants qui naissent dans des conditions qui ne sont pas marrantes du tout. Et puis on peut dire aussi, moi je ne crois pas non plus qu'un enfant soit un être vierge. Là c'est une croyance personnelle, personne n'est obligé de la partager, mais moi je crois qu'on vient de quelque part, au moins d'une généalogie. On porte, on le sait ça,
oui.
On porte les angoisses, les histoires, de notre culture familiale, et même de notre culture plus large, voilà. Et donc on vient pas vierge, et quelquefois on n'est pas vraiment content d'être là, quoi.
Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Entretien ce jour dans C'est pas pour dire avec la conteuse Angèle Goduchot. Il est question de la difficulté de vivre et aussi des raisons et occasions multiples de joie.
Tu redéfinis aussi tout ce qu'on peut trouver en soi, en fait, autre que d'absorber des friandises, de manger du sucré, de manger du très salé, du très
gras. Oui, alors voilà, c'est ça. Je parle de ça d'abord, de ce tabou qui consisterait à dire que ça n'existe pas. La déprime, par exemple, chez un enfant. Il y a des enfants qui naissent et ils sont très mécontents d'être là. Très mécontents.
Ouais.
Ou en tout cas, ils le sont... Oui, oui, c'est-à-dire que voilà, tu étais dans un endroit fabuleux, dans le meilleur des cas,
oui.
Tu étais dans un endroit fabuleux, tout était très bien, tu étais protégé, tu avais tout sous la main, c'est le cas de le dire, et tout d'un coup, plaf, tu débarques dans un univers qui est plus ou moins hostile, la lumière est trop forte, le son est trop fort, il fait froid, il fait chaud, tout d'un coup tu découvres la faim, enfin tout ça, c'est difficile quoi.
L'atterrissage au monde est douloureux aussi. Enfin,
oui, c'est un vrai... c'est un vrai traumatisme. Et moi, en tout cas, puisque tu disais c'est un spectacle pour enfants, pas pour enfants, tout ça, moi, je dirais que je parle aux enfants du fait que si jamais ils sont pas ravis d'être là, c'est normal. Mmh. Voilà. Et je parle aux parents aussi de ça. Enfin, voilà. Donc, il y a cette... ce tabou là, donc ça c'était mon intention.
Enroulez le fil, déroulez le fil, étire, et tap, tap, tap. Enroulez le fil, déroulez le fil, étire, et tap, tap, tap.
Et puis c'est vrai que en écrivant à Cuba, dans cet univers où tout est animé, où tout est vivant, la nature est vivante, les plantes, les animaux ont une âme, le feu, le fer, les chemins, voilà, tout est signe, tout est habité, tout est... voilà, je me suis reliée au fait que à l'intérieur de moi aussi, tout est vivant. Alors, il existe des cultures dans lesquelles on est relié à des animaux. Sans doute, tu as entendu parler de ça. Je ne suis pas une très grande connaisseuse de ça, mais cette idée d'animaux totems, non ?
Oui.
On serait relié aux...
C'est même un peu à la mode en ce moment.
Oui, il y a le côté un peu 36-15 chaman.
Ouais.
voilà. Alors on est rarement, notre animal totem, comme par hasard, est rarement le bousier, mais plutôt l'aigle ou le lion, plutôt que le cafard et le serpent. Mais voilà. Donc, Je suis partie de ça et aussi de l'expérience que j'ai fait moi-même en rêve, en réalité. Je suis une grande rêveuse. en rêve, je suis en relation avec des animaux qui font partie de ma vie, qui m'aident. J'ai un ours, par exemple, qui dans mes rêves intervient chaque fois qu'il y a une difficulté vitale, où il y a besoin vraiment d'énergie vitale. Il est là.
T'es un assistant de poids, là.
Ah, ouais. Oui, c'est un sacré assistant. Ouais. Et quand... et même dans ma vie diurne, on pourrait dire, quand je suis épuisée, ça arrive, quand je suis fatiguée ou quand j'ai besoin de me laver de quelque chose, il est là, il ouvre la gueule, il se met en face de moi, il ouvre la gueule très grand, il pousse un énorme grognement qui est comme un karcher de son et ça me lave. Il fait ça devant, derrière, à droite, à gauche, je suis tout propre. Voilà. J'ai une abeille. Qui est présente aussi. J'ai une tortue, un singe. Voilà. Ça fait partie de mes ressources, on pourrait dire. Quand j'ai besoin d'aplomb, d'humour, d'irrévérence, d'être gonflé un peu, c'est le singe qui arrive. Et là, je me relie tout de suite à toutes ces histoires de la tradition chinoise, indienne, du singe, du roi singe, du singe égal du ciel, qui dit « je suis un singe, mais moi je vais monter au ciel, je vais descendre aux enfers et personne ne m'empêchera de le faire, et je vais devenir un roi singe méditant ». Le fait d'être là, je me suis dit « tiens, au fond, on pourrait parler de ça, qu'est-ce que c'est qui me nourrit, moi ?» Qu'est-ce que c'est qui me console quelles sont mes ressources? Eh bien, elles sont quand même d'abord à l'intérieur. Il a fallu que je me relie à mon imaginaire, à mes sensations, enfin à mon imaginaire, on pourrait dire, pour trouver que la... À mon imaginaire et à la magie de la vie, on pourrait dire, il a fallu que j'intègre, là je parle de souvenirs d'enfance, il a fallu que j'intègre de plus en plus consciemment, on pourrait dire, que le réel pour moi, la réalité pour moi, elle est composée à part égale. Bon, ça je ne suis pas sûre de la proportion, mais elle est composée de visible et d'invisible. Et que c'est ces deux choses-là qui font le réel. Le réel, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, évidemment. C'est aussi tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qui est...
Et ce qu'on est, comment on perçoit, justement.
Bien sûr, voilà. Donc il a fallu que j'intègre ça, et que j'intègre, toutes mes représentations et tout ça, pour trouver que la vie avait du sens. Et voilà. Et puis après, c'est aussi ça qui m'a permis d'aller vers les autres. Voilà. Donc voilà, ça parle de ça, du fait que un être humain, c'est un être relié à l'extérieur, mais aussi relié à l'intérieur, relié au visible et à l'invisible, on pourrait dire, et que notre nourriture, c'est tout ça. Et que il est possible, c'est une hypothèse, je ne suis pas spécialiste des troubles de l'alimentation, mais il est possible que quelqu'un qui refuse de manger ou quelqu'un qui se remplit sans pouvoir s'arrêter, c'est qu'en effet, il y a quelque chose là qui s'est pas fait correctement dans son rapport à lui-même et au monde et dans sa capacité à se nourrir d'autre chose, on pourrait dire. Voilà, sans m'avancer plus que ça.
Une petite sauterelle a parlé dans mon oreille. Hey, une petite sauterelle a parlé dans mon oreille. Hey, et elle saute, saute, saute pour que je me réveille. Et elle chante, chante, chante ma petite merveille. Et elle a dit, c'est pas fini, oui.
Hein ? C'est pas fini ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est pas fini de manger n'importe quoi, de te bourrer de trucs bizarres ? Des chamallows ? Non mais ! Alors, je lui ai tout expliqué. La peur, le vide, la tristesse, et la musique des étoiles qui me manquait si fort. Et puis je me sens seule au monde. La sauterelle a dit, « Ben, on est là. » « Quoi ? On ? Qui ça ? » ?»« Ben, nous. » »« Nous qui ? » ?»« Nous, tes animaux. » »« Mes amis. » »« Quoi ? » ?»« J'ai pas d'animaux. » Hé, sauterelle, regarde bien autour de toi. Tu vois quelque chose ? Y a rien. Je suis toute seule. Même toi, je crois que tu n'existes pas.
Quoi, j'existe pas ?
Ah, c'est que tu ne regardes pas au bon endroit. Regarde à l'intérieur.
À l'intérieur ?
Sauterelle, je ne peux pas regarder à l'intérieur de moi. Si. Avec ton nez, tes yeux, tes oreilles, avec ton cœur, ton imagination, regarde.
Parlons un petit peu du dispositif scénique du spectacle. Je crois que là, tu as fait assez fort du point de vue de la sobriété.
Oui, comme disait le punk, c'est sobre.
C'est
sobre. Oui, eh bien, voilà, j'ai fait une chose qui est très simple et qui est un peu magique aussi, mais justement, parce que c'est très simple. C'est un cercle. Voilà, ce spectacle, c'est un cercle. Et je raconte toutes ces histoires dans un cercle. Et puis, je dis que c'est une spirale aussi parce qu'en fait, il y avait dans ce que je voulais apporter comme élément, il y avait le cercle et la spirale, et il y avait aussi le fil. Alors le fil du récit, évidemment, mais aussi le cordon ombilical, mais aussi le fil d'Ariane, ce qui nous permet de sortir du labyrinthe. Voilà, donc j'ai un cercle noir, j'ai des cordes, j'ai un bout de blanc qui est enroulé comme un chemin, comme un labyrinthe, on pourrait dire, qui vient de l'extérieur et qui fait comme un labyrinthe à l'intérieur de mon cercle.
J'ai des animaux aussi qui sont là.
Oui, à l'intérieur de ce cercle, il y a comme des pochoirs, des animaux. Ouais. Effectivement, il y a un singe, il y a une tortue, il y a une panthère, un aigle, un serpent, une grenouille, je ne sais plus. J'ai un autre bout, deux autres bouts rouges. Un qui est à l'extérieur et qui reste à l'extérieur. Et un avec lequel je joue dedans. Voilà, donc j'ai du noir, du blanc et du rouge. Et voilà. C'est vraiment d'une très grande simplicité. Ça, c'était nécessaire pour moi comme espace de jeu et ces éléments étaient nécessaires pour moi, mais je ne saurais pas trop bien expliquer pourquoi. Il n'y a pas, c'est joli, on pourrait dire. Il n'y a pas plus de sens que ça, sinon que le cercle me paraissait important, la spirale aussi, le labyrinthe, le fil, tout ça.
Et la calebasse qui fait comme.
Et voilà.
La calebasse inversée qui fait quand même comme un ventre.
Oui, alors c'est ça. Au milieu de cet espace, une calebasse, deux calebasses d'ailleurs, une grosse inversée, une petite dedans, qui fait comme un nombril, qui fait comme un ventre. Qui fait un point central.
Mais tu joues aussi avec le public. Alors raconte-nous les fins de spectacle un peu et surtout le sens que ça a d'inviter les enfants en particulier.
Ah oui, j'ai jamais accueilli d'adultes dans mon.
Ils sont pas loin.
Oui, alors ça n'arrive. Là, tu as vu une représentation où il y avait peut-être 30 ou 40 personnes. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de monde, voilà, pour pouvoir faire voilà. Ce dont tu parles. En fait, à la fin du spectacle, une fois que le spectacle est terminé, j'ai salué, qu'on a fait des applaudissements et tout ça, enfin tout le rituel d'une fin de spectacle. Quelquefois, j'invite les enfants, quelques enfants, ceux qui ont envie, à venir essayer mon labyrinthe. Donc, évidemment, quand ils sont à l'extérieur, ils sont très intéressés par cet espace, mais pendant tout le temps où je joue, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Ils n'y touchent pas. Là, je leur propose d'essayer mon labyrinthe. Donc, un enfant qui a envie, je le prends, je le pose au milieu, là où normalement il y a la calebasse, au centre du labyrinthe, et puis je lui explique, enfin je lui montre le chemin.
Il faut qu'il rentre et tout ça.
Pour sortir en fait. Oui. Moi j'ai utilisé le labyrinthe au début du spectacle pour rentrer dans mon espace, mais là on joue avec le fait de sortir. Alors c'est joli parce que ils font ça avec beaucoup de précautions. On chante, je chante, souvent les adultes chantent aussi pour accompagner. On applaudit l'enfant quand il est sorti. Évidemment, pour l'enfant, c'est un travail qui demande de l'attention et de la précaution. Pour les parents, évidemment, il y a une métaphore de la sortie du ventre de la maman, enfin quelque chose comme ça, de la naissance, qui est assez jolie. Donc voilà, je leur permets de venir.
Mais aussi avec ces bouts qui sont lancés.
Alors ça,
dans la relation entre toi et l'enfant.
Oui, c'est la fin du spectacle, ça. C'est pas tout à fait fini, mais c'est vers la fin du spectacle. Vers la fin du spectacle, je me sers vraiment de ces bouts et notamment de ce bout rouge un petit peu long pour créer des liens. Donc je lance le bout vers quelqu'un, je tiens l'extrémité et je propose à quelqu'un d'attraper un enfant, d'attraper l'autre extrémité. Et on voit qu'on peut jouer, qu'on peut faire des formes au sol jolies avec ce bout rouge. En plus, il est rouge, donc il prend bien la lumière. On voit qu'on peut tirer et que si chacun tient bien, personne ne tombe. Enfin, voilà. On voit, voilà, c'est une métaphore de la relation entre nous. Et oui, c'est vrai que c'est un bon moment, ça. Un jour, il y a un petit garçon qui a chopé le bout et qui est parti en courant. Sa mère a dû aller le récupérer. Il allait sortir du théâtre.
Il devait avoir envie d'un lien assez privilégié avec toi.
Ah bah non, là, il avait envie d'un lien privilégié avec le bout.
Tu dis que tu n'es pas sonorisé, mais n'empêche que tu utilises une bande-son.
Ah oui, c'est la première fois de ma vie que je travaille avec une bande-son. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'ai presque toujours travaillé en musique, soit c'est moi qui la produis, je chante ou tout ça, soit je travaille avec un compositeur ou des musiciens, voilà. Mais là, je voulais être toute seule. Ça n'avait pas de sens de rajouter quelqu'un à l'extérieur, pas vraiment, mais je voulais de la musique. Donc j'ai passé commande d'une musique. Ça a été le travail au retour. Après la Havane et l'écriture du texte, il y a eu l'écriture de la musique, en fait. Et donc, j'ai passé commande à un compositeur, un jeune compositeur très talentueux, compositeur et musicien très talentueux, qui s'appelle Balthazar Bodin. Et on a travaillé à distance puisqu'il habite Paris et moi Nantes. Donc je lui ai envoyé des indications, je lui ai envoyé le texte, des indications. Il m'a renvoyé des maquettes. On a fait quelques allers-retours comme ça. Et puis à un moment, c'était vraiment bien. C'était vraiment ça. Donc il a écrit. Et puis il est venu ici enregistrer. Et on a passé un moment d'été à faire studio d'enregistrement. Et alors là, je dois dire que c'était C'était très émouvant parce que, pour dire toute la vérité, ce jeune compositeur très talentueux, il se trouve que c'est mon fils. Et donc, il sort très précisément de mon ventre, donc, comme tu peux l'imaginer. Et alors, j'ai un souvenir d'un moment où il était en train de chercher des arrangements un peu élaboré autour de bateau sur l'eau. Et voilà, il cherchait des choses autour, il était avec un clavier, et puis je chantais, et tout d'un coup, j'ai réalisé que ce grand type-là, très doué et tout ça, je lui avais chanté combien de fois? Combien de fois cette chanson? Combien de fois je l'avais bercé pour l'endormir avec cette chanson? Et cette espèce de cycle comme ça, c'était très émouvant, ouais. Donc oui, il y a de la musique sur ce spectacle, qui est de la musique diffusée. Donc il faut des enceintes. Alors la plupart du temps, quand c'est dans un petit lieu, je viens avec une petite enceinte. Et puis dans une salle de spectacle, on peut diffuser ça un peu mieux.
Ce qui n'empêche pas de chanter.
Ce qui n'empêche pas de chanter. Mais c'est vrai que c'est un travail vraiment particulier parce que j'ai une assez grande liberté dans le spectacle et notamment dans ma relation aux gens qui sont là, aux spectateurs, aux enfants, aux parents et tout ça. Mais justement, puisque le texte est écrit et puisque le rythme aussi, c'est-à-dire que j'ai des points de repère dans ma bande-son, il y a des endroits où j'ai des rendez-vous avec ma bande-son, il ne faut pas que je sois à côté. C'est comme si ça s'est posé. Et toute mon énergie, elle n'est pas utilisée à chercher les mots, elle n'est pas utilisée à, comment dire, à des choses techniques, disons. Elle est vraiment tout entière dans la relation. Dans la relation avec les enfants et puis dans la relation de moi aussi avec cette histoire. Voilà. Donc, c'est une sacrée expérience. Je ne l'avais pas fait, mais je trouve que c'est une sacrée expérience de travailler avec une bande-son.
Dernière petite chose aussi qui m'a pas mal ému moi-même, c'est le fait qu'à la fin du spectacle, les enfants ont apporté leur doudou juste à côté des motifs, en fait, qui sont... imprimé sur ton fameux labyrinthe.
Ah bah là, c'était la première fois. Là, tu as vu une chose qui s'était jamais passée.
Ouais.
Jamais passée. Les enfants qui étaient là à la séance là, d'où on sort ont eu envie, un premier, puis un deuxième, puis ensuite tout d'un coup plein d'enfants, ont eu envie de faire connaissance entre leurs doudous, qui sont eux-mêmes souvent des animaux d'ailleurs, entre leurs doudous et les animaux qui sont des pochoirs qui sont imprimés sur mon tapis. Ouais. Donc j'ai eu un labyrinthe rempli de mes animaux et de leurs doudous. Et c'est vrai que c'était assez émouvant. D'habitude, non, ça n'était jamais arrivé.
Et avec les parents autour qui prennent les photos.
Ah bah oui, des doudous et tout ça. Non, dans la relation avec les enfants, il y a ce moment où on joue avec les fils, les liens. Il y a ce moment où quelques-uns ont envie d'expérimenter le labyrinthe. Et puis, pendant le spectacle, je les prends en compte, je les interpelle un peu de temps en temps. Évidemment, ils sont très, très jaloux quand ils me voient. Il y a quand même une séquence d'anthologie. Ah oui, je dois dire que dans mon cahier des charges, quand j'ai créé ce spectacle, je voulais parler de l'appétit, je voulais parler de tout ça, mais ça faisait très longtemps que je me disais un jour, je voudrais faire un spectacle et parler la bouche pleine. Parce que d'abord, on dit ça aux enfants, on parle pas, c'est pas poli, on parle pas la bouche pleine. Et je voulais faire ça, et je voulais...
Mieux ça... parler du vide, sans doute.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a une séquence... d'anthologie dans ce spectacle où je mange des chamallows et donc je comme ça, et donc il y a tout un moment où les enfants sont abasourdis, ils se disent non mais qu'est-ce qu'elle fait, ils se retournent vers leurs parents en disant voilà, puis ils ont assez envie, ils auraient assez envie d'en manger. Au bout d'un moment, ils voient bien que, j'espère les dégoûter des chamallows à vie. Mais
ça les fait rire aussi.
Oui.
Tu as fait d'ailleurs un disque aussi.
J'ai fait un disque. On a fait avec Balthazar Baudin, on a fait un disque. Mm-hmm. On peut le trouver, c'est un disque, un vrai disque, qu'on peut mettre dans un lecteur de disque, mais si tu vas sur mon site internet perso, que tu trouveras en faisant quelque chose comme Anne-Gaëlle Conteuse ou quelque chose comme ça, il y a un endroit où il y a un onglet audio, voilà, et tu peux trouver le disque là, tu peux le télécharger pour pas cher.
Pour rien même, je crois.
Non, si. Tu peux l'écouter pour rien.
Oui, oui.
Mais si tu veux le télécharger, tu le payes quand même. Je trouve que c'est normal. Ouais. C'est quand même du travail.
Bien sûr.
Oui, tu le payes, mais tu le payes pas cher. Puis c'est vrai qu'on s'est rendu compte que moi j'aime bien les objets disques, mais on s'est rendu compte qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui n'ont rien pour écouter les disques.
C'est très, très dommage.
Même dans les voitures.
Franchement.
J'adorais, moi, écouter des disques.
Il y a des voitures qui ont encore des lecteurs
oui,
de CD.
Oui, c'est ça. Dans la mienne, il y a encore un lecteur de CD.
Moi, j'ai toujours trouvé que les petits lecteurs de CD que les enfants possédaient, tu vois, ils avaient une certaine autonomie dans l'utilisation des disques. Tu vois, ils les mettaient quand ça leur faisait plaisir, le soir.
Balthazar, il avait les fameux Fisher Price, là, tu sais.
Ouais,
ces trucs super costauds avec des cassettes.
Ah oui, il y a des cassettes.
C'était des cassettes. Et c'était hyper costaud. Et c'est vrai que les enfants avaient une super autonomie dans l'utilisation des musiques ou des histoires qui, c'était les premiers j'aime lire. Et dans l'utilisation des musiques et des histoires qu'ils se passaient, ils n'avaient pas besoin d'être en relation avec un MP3 sur un écran, sur un téléphone ou quoi. Et c'est vrai, on a. Il me semble qu'on a perdu quelque chose là.
Bon, merci Angel.
Merci de ton interview et ça m'a bien plu d'avoir l'occasion de parler de ce spectacle.
Il y a peut-être une idée aussi. L'enregistrement de Miam existe, le spectacle de Miam existe également. Est-ce qu'il y aurait une idée aussi de travailler avec, une maison d'édition par exemple?
Ah, mais bien sûr.
Pour travailler des illustrations.
Ça serait beau.
Pour mettre des images aussi sur tous ces
animaux dont tu parles. Ça serait vraiment beau. Ah oui, un livre pour enfants un livre disque, ça serait génial. Et avec des illustrations justement qui pourraient par exemple ramener à l'univers un peu ethnique ou tous ces animaux sacrés ou ces animaux totems là, ça serait magnifique évidemment. Bah oui, tu fais bien de parler de ça. Je lance vers le ciel une intention vers les éditeurs jeunesse.
Voilà.
Il y en a des très bons chez Gallimard, chez Cyros, chez Didier Jeunesse.
Bon, à bon entendeur.
À bon entendeur.
Merci Angel, à bientôt.
Je t'en prie, merci beaucoup.
Au revoir. C'était une discussion à propos du spectacle Miam. On l'aura compris, pour tout petit, mais pas que, pas seulement. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez l'écouter à nouveau, elle et toutes ses petites sœurs, sur le site www.c'estpaspourdire.fr. Et bien sûr aussi, vous pouvez réagir, faire des commentaires, des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Voilà, je vous dis à bientôt. Thank you.
still have a dream.